C'est Christine Cossette au microphone. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de Croire d'hier à demain. Je vous rappelle que ces émissions sont réalisées pour le 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le Père Michel Gourgue, dominicain. Docteur en théologie et maître en sacrée théologie, Michel Gourgue est professeur d'écriture sainte et de théologie biblique du Nouveau Testament et vice-doyen à la faculté de théologie du Collège universitaire dominicain. Il est aussi professeur invité à l'Institut pastoral depuis maintenant 35 ans et professeur invité à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est des textes de Paul dont nous parlerons avec notre exégète, mais plus particulièrement des accusations de misogynie dont saint Paul est souvent accusé. Notre exégète nous aidera à démêler les textes qui viennent de saint Paul, de ceux qui ne viennent pas de lui. Il nous aidera aussi à porter un regard critique par rapport à certains textes qui nous présentent une conception des rapports hommes-femmes qui ne coïncide pas toujours avec la philosophie du Christ de nos évangiles. Bref, il nous permettra de faire une lecture intelligente de certains textes qui heurtent parfois nos sensibilités contemporaines. C'est donc avec plaisir que je reçois le Père Michel Gourgue. Michel Gourgue, bonjour.
Bonjour.
D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation à participer à cette série d'émissions « Croire d'hier à demain » dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal. On sait, Père Michel Gourgue, que saint Paul a été accusé à plusieurs reprises de misogynie, mais quand on lit certains versets de certains textes que l'on a l'habitude d'attribuer à saint Paul, on eût plutôt porté à croire que c'est juste. Si vous le voulez bien, nous allons écouter quelques-uns de ces textes.
Femmes, soyez soumises à vos maris. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de prendre la parole. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme. Qu'elle garde le silence. L'homme est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête la marque de sa dépendance à cause des anges.
On sait, Michel Gourgue, que vous êtes un exégète du Nouveau Testament. Alors, quelle est d'abord l'attitude de l'exégète devant des versets qui ne semblent pas du tout faire écho à l'enseignement et à l'attitude de Jésus de nos évangiles?
Je vois que vous êtes tombé. Vous avez su repérer exactement la plupart des passages incriminants. Ceux qui sont responsables de l'accusation persistante de misogynie qui pèse sur saint Paul depuis toujours. Il est clair que dans certains passages que vous avez choisis, il y a une espèce de contradiction entre l'attitude très ouverte de Jésus dans les évangiles et l'attitude tellement restrictive. Par exemple, vous avez lu le passage de la première à Timothée, qui est extrêmement restrictif. Ça, c'est clair. Maintenant, vous avez remarqué que vous avez lu d'Éphésiens, d'un Corinthien, d'un Timothée. Alors, tout est un petit peu pêle-mêle dans ces textes-là que l'on choisit régulièrement pour incriminer saint Paul. Et un exégète sent le besoin de dire, bien, il faudrait débroussailler un peu la chose. Tout est un peu pêle-mêle. Essayez de voir, d'abord, qu'est-ce qui est de Paul, qu'est-ce qui n'est pas de lui. Qu'est-ce qu'il a dit vraiment et qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et dans ce qu'il a dit, est-ce qu'il l'a dit au nom de la foi, au nom de l'Évangile, ou bien s'il l'a dit au nom des conceptions, des rapports sociaux d'une époque donnée?
Oui. Hein? Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à démêler maintenant ce que les lettres qu'on attribue à saint Paul et celles qui n'ont pas été écrites de sa main, par exemple?
On pourrait dire, en simplifiant un peu, mais pour nous donner de grands points de repère, On pourrait dire qu'il y a comme trois étapes, c'est bien simple. Avant Paul, Paul et après Paul. Hein? Alors, avant Paul, ça serait donc la période de, entre 30 et 50, oui. Celle qui sépare Jésus de la rédaction de la première lettre de saint Paul. Hein? C'est peut-être 51, mais c'est plus commode, disons, prenons un chiffre rond, pour la première épître aux Thessaloniciens, qu'on identifie généralement comme la première lettre de Paul. Donc, 30-50, 20 ans. Ensuite, la grande période de production de Paul lui-même, alors ça, c'est les années 50, entre 50 et 60. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler le deuxième Paul, hein, où là, c'est moins clair. Par exemple, l'Épître aux Colossiens, en général, on s'entend pour dire qu'elle est de lui. L'Épître aux Éphésiens, c'est plus discuté, mais en tout cas, elle est tellement semblable à l'Épître aux Colossiens. Donc, les années 60, entre 60 et 65. Donc, avant Paul, 30-50, 50-65, Paul lui-même, avec les deux périodes, hein, le premier Paul, deuxième Paul, puis après Paul, 65 jusqu'après. Donc, c'est là qu'on rangerait la première lettre à Timothée que vous avez citée.
Hein. Oui. Alors, qu'en est-il d'abord des textes avant 50?
Je vois que vous avez un doute à vous voir. Vous vous dites en vous-même, mais enfin... Puisque saint Paul a écrit le premier,
oui.
Qu'est-ce que nous avons de cette période? Et vous avez parfaitement raison.
Oui. Non?
Nous n'avons aucun texte antérieur à l'an 50. Saint Paul, la première épître aux Thessaloniciens, est le premier écrit suivi qui nous soit resté. On ne dit pas qu'il n'y en a pas eu. On dit que c'est le seul qui nous est resté. Il est le premier. Maintenant, il arrive cependant que saint Paul et les autres, de la deuxième période, donc entre 50 et 70, avant les Évangiles, que dans, parfois, en élaborant sur tel ou tel point de la foi ou de l'engagement chrétien, il renvoie à des formulaires qui sont connus des communautés. Et parfois, il les cite mot à mot, ces formulaires. Alors ça devient très précieux. Ça dit... Ce sont des proclamations de foi qui nous renseignent sur ce que les toutes premières communautés, donc dans les premières générations du christianisme, ce qu'ils ont mis en relief dans la foi, non, dans l'expression du mystère de Jésus, etc.
Oui, est-ce que vous avez un exemple de formulaires-là?
Prenons-en un qui nous concerne, hein, qui concerne notre sujet. Je n'en vois qu'un, en réalité, sur notre sujet, c'est-à-dire... la conception du rôle, du statut de la femme en regard de la foi. C'est dans l'Épître aux Galates au chapitre 3e. Non? C'est à la fin du chapitre 3 de l'Épître aux Galates. C'est un long développement sur qui est assez unifié. Tout le chapitre parle de la foi comme étant ce qui qualifie comme descendance d'Abraham. Abraham est le père des croyants, Abraham crut en Dieu, celui fut compté comme justice, hein, le grand texte. Et Paul veut démontrer qu'il n'y a pas que les Juifs qui sont les descendants d'Abraham. Et donc, si des païens, hein, eux aussi se réclament de la foi, ils sont aussi bien descendants d'Abraham et héritiers des promesses de Dieu. Alors, c'est toute sa démonstration. Mm-hmm. Et c'est à la fin de ça qu'il dit que, en réalité, la descendance d'Abraham, c'est le Christ. Hein? Il joue sur les mots, c'est très rabbinique, on voit.
Oui.
Hein, l'Écriture ne dit pas à ses descendants, mais à sa descendance. Il n'y en a qu'un, c'est le Christ. Mais il dit, tous ceux qui se rattachent au Christ par la foi et le baptême deviennent descendants, appartiennent à la descendance d'Abraham. Et c'est là qu'il cite tout à coup, « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous ne faites plus qu'un. » Et là, hein, c'est la triple antithèse, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Alors ça détonne dans le contexte. On voit bien que le premier membre, il n'y a plus ni juif ni grec, c'est tout à fait pertinent dans le contexte. C'est ce qu'il veut démontrer, que l'on soit païen d'origine ou que l'on soit juif, on est de la descendance d'Abraham puisqu'on croit. Non, ça va. Mais que vient faire esclave, homme libre?
Oui.
Que vient faire homme-femme? Aucun rôle. Donc on se dit, c'est rythmé, vous voyez, ces formulaires, on les reconnaît souvent parce qu'ils ont une forme très rythmée. Hein, et c'est équilibré, c'est balancé, etc. Ni homme, ni femme, ni tout. Vous voyez, l'opposition comme ça, On dit, il doit citer quelqu'un. C'est comme si vous écrivez à quelqu'un et puis vous lui dites une lettre banale de tous les jours. Mm-hmm. J'ai eu la grippe cette semaine, mm-hmm. et puis l'hiver, ça peut donc finir, et cette année, Pâques est tard, et puis l'enseignement, bon, tout ça. Puis à la fin, ma chère André, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour.
Ah oui, ah oui, oui.
Vous voyez, ça détonne par rapport au reste. Mais quelqu'un qui ne sait pas le contexte où on utilisait ça, il dit, c'est étrange, hein, ça rime et tout. Elle doit citer quelqu'un. Elle doit citer, ah, même chose. Or, dans le cas ici, c'est très intéressant parce que cette formule, il n'y a plus ni juif ni grec, on la rencontre encore chez saint Paul à trois autres endroits. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, on l'a, puis on l'a aussi dans Colossiens 3. Ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Pas l'homme et la femme cette fois. Ce que l'on constate, c'est qu'à chaque fois, que ce soit dans la première aux Corinthiens ou dans l'épître aux Colossiens, on a la même chose que dans l'épître aux Galates, c'est-à-dire le contexte baptismal. Donc, devant ça, les exégètes, les historiens disent, c'est clair, ils citent un formulaire baptismal, une proclamation que les chrétiens et les chrétiennes de la toute première génération, avant 50 en tout cas, ont dû chanter lors du baptême. Et dans cette proclamation, il disait, la société, que ce soit l'appartenance religieuse antérieure, juive, grecque, fait qu'il y a des différences entre nous. Le statut social, hein, esclave, homme libre, le sexe, la nature, fait qu'il y a des différences. Mais devant Dieu, ces différences ne comptent pas. Donc, on proclamait la nouveauté chrétienne, une espèce d'émerveillement devant ce que le rattachement au Christ, hein, entraînait comme nouveauté. Devant Dieu, il n'y a pas de différence, qui que nous soyons.
Parlons maintenant des textes de Paul des années 50. Est-ce que ces textes-là parlent toujours d'égalité homme-femme?
Si on regarde la période des années 50, hein, donc la période de la grande production de saint Paul, finalement, il n'y a pas tant de textes où la question est abordée, hein, il n'y en a pas tellement. Par exemple, les deux premières lettres de Paul, Thessaloniciens, hein, rien de particulier, il n'y a pas de développement qui laisserait entendre de conception particulière du rôle, du statut de la femme en regard de la foi, de la vie ecclésiale. Mais il faut aller dans la première fois, me semble-t-il, c'est en 55, donc vous voyez au milieu de cette période, la première épître aux Corinthiens. Là, on a quelque chose. On a, entre autres, au chapitre 7e, vous vous souvenez, quand on interroge saint Paul. Saint Paul dit, j'en viens maintenant à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme.
Oui.
Et saint Paul répond. Donc, les Corinthiens avaient interrogé Paul. Et Paul répond, c'est au début du chapitre, « Toutefois, à cause des débauches, hein, la porneia, mm-hmm. les risques, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari, que le mari s'acquitte de son devoir envers sa femme et pareillement la femme envers son mari. » Puis voyez, verset 4, « La femme ne dispose pas de son corps, mais le mari. » Et s'il fallait qu'on s'arrête là, ça crierait. Mais regardez, ça continue. « Pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, mais la femme.
Ouais. » Donc, il y a une réciprocité,
absolument.
Finalement.
C'est très frappant dans ce texte-là. Mm-hmm. Donc, ça reste dans la même ligne de l'étape antérieure, c'est-à-dire il n'y a pas de différence devant Dieu. C'est-à-dire, non, il n'y a pas de... Paul ne fait pas référence au contexte social. Mm. Il parle simplement en tant que croyant. Tout ce chapitre 7e, ça traite de le mariage et du célibat. Pour nous, c'est des questions réglées depuis longtemps. Oui. Ça fait 20 siècles de christianisme, on a parlé de ça. Mais ça, c'était tout nouveau. Par exemple, pour des Juifs, est-ce qu'un Juif peut rester célibataire?
Ah oui.
C'était une chose étrange. Alors, Paul, vous voyez, prend position sur cette question. Donc, ce texte-là manifeste comme ça une réciprocité. L'autre passage est au chapitre 11.
C'est plus délicat.
Et celui-là, oui. il est curieux, ce passage. Nous avons au collège à Ottawa une étudiante qui fait une thèse de doctorat sur ce texte-là. Ah. Et elle ouvre, me semble-t-il, des belles pistes de compréhension et tout. Toujours est-il que
Mais
c'est le fameux...
Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas le chapitre 11 de 1 Corinthiens,
oui.
si vous voulez peut-être nous en parler.
Oui, c'est le fameux passage où Paul parle de la tenue des femmes dans les assemblées de prière chrétienne et de leur rôle. Donc, cette fois-là, on parle du rôle des femmes dans l'assemblée. Hein? Et donc, c'est ce fameux passage où Paul dit que la femme, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit,
non,
doit avoir quelque chose sur la tête en signe d'autorité. Alors, c'est très mystérieux de quoi s'agit-il, mais toujours est-il que c'est ça qui a fait que jusqu'à Vatican II, les femmes ne venaient pas à l'église sans avoir un chapeau ou quelque chose sur la tête.
Précisément à cause de ce texte-là.
Oui, qui était fait pour un contexte très particulier. Mm-hmm. Hein, c'était le contexte de Corinthe dans les années 55.
Mm-hmm.
Mais on a compris que ça avait une valeur intemporelle et universelle.
Mm-hmm.
Toujours est-il que dans ce passage, au chapitre 4, Paul dit: tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte fait affront à son chef. Alors, c'est mystérieux, c'est-à-dire, on voit bien, il joue sur le sens de tête. Képhalé, en grec, c'est à la fois tête et chef. Puis, vous voyez, donc, tout homme qui prie et prophétise. Donc, il y a là le rôle des hommes dans l'assemblée. Prier, ça va, c'est...
Mmh.
Mais prophétiser, ça, il semble bien que c'était une certaine explication, dirions-nous aujourd'hui, hein, de la parole, enfin, la prophétie dont il parle, dont il va parler plus loin, du chapitre 12e, hein, parler en langue et la prophétie. Et il dit au chapitre 14 que la prophétie, c'est ça qui est utile à la communauté, parce que ça aide, comme il dit, à bâtir, à édifier, comme il dit, les croyants. Donc, c'était une parole qui avait un rôle, nous dirions pastoral, hein, au sens propre de pastoral, c'est-à-dire qui s'adresse à des croyants et des croyantes qui ont déjà fait l'option de foi pour les amener à grandir dans la foi.
Mm.
On pourrait dire comme ça. Toujours est-il qu'il dit au chapitre 11-4, « Tout homme qui prie et prophétise. » Verset 5, « Toute femme qui prie et prophétise.
Mm. »
On a la même chose.
Oui.
On a la réciprocité. Mais c'est celle-là, c'est là qu'il dit qu'elles se mettent quelque chose sur la tête.
Donc, elles ont droit de prier, de prophétiser.
Voilà, au même titre que les hommes.
Que les hommes, mais elles doivent mettre quelque chose sur la tête. Et cette pratique-là viendrait des Juifs.
Je ne sais pas. L'étudiante dont je vous parle, qui fait sa thèse là-dessus, elle a une hypothèse qui est très intéressante. Selon elle, ce serait qu'il y aurait dans l'assemblée de prière à Corinthe, il y aurait eu des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne. À la synagogue, en autant qu'on puisse voir déjà à cette époque, la femme n'avait aucun rôle.
Mm.
Et donc, prendre la parole, prophétiser dans l'assemblée au même titre que les hommes, c'était difficilement acceptable dans la tradition de ces chrétiens. Et donc, Paul, à partir du verset 11, c'est très curieux, il renverse complètement l'argumentation qu'il a utilisée, hein, au début. Quand il dit, on a l'impression qu'il parle à des Juifs. Dieu, le Christ, l'homme, la femme. Il fait référence au récit de la création selon lequel la femme, hein, a été créée après l'homme. Puis il introduit là-dedans l'ordre nouveau, la référence au Christ. Donc, il dit, la femme, en se mettant quelque chose sur la tête, marque qu'il y a une différence. Elle tient son rang, en quelque sorte. Hein? Elle n'est pas l'homme, mais cependant, elle peut prophétiser. Tout à coup, au verset 11, il dit, « Pourtant, la femme est inséparable de l'homme et l'homme de la femme devant le Seigneur. Si la femme a été tirée de l'homme, ce qu'il a dit, on a l'impression que maintenant, il parle pour les païens. On peut aussi bien dire que l'homme vient de la femme et tout vient de Dieu. » Donc, on voit bien, ils disent, ça aussi, c'est naturel. S'il n'y a pas de femme, il n'y aura pas d'homme.
Non,
c'est bien sûr.
C'est ça.
Donc, vous voyez, il fait jouer non pas l'ordre originel de la création aux origines.
Mais il le fait au début.
Au début, pour les Juifs.
Pour les Juifs.
On a l'impression que pour les païens.
Bien,
alors, c'est là qu'il dit, les Juifs, vous autres, voyez-y un signe de subordination. Elle tient son rang de ce qu'elle a sur la tête. Tandis que pour les païens, voyez-y un signe d'autorité. Hein, c'est le terme qu'il emploie, l'exousia, qu'elle est un signe d'autorité sur sa tête. Donc, il dit, mettez un petit peu d'eau de chacun dans votre vin, puis acceptez que les femmes prophétisent dans l'assemblée.
Mmh.
Alors, voyez, on reste dans la même ligne. On ne parle que des relations entre les croyants et les croyantes. On ne s'occupe pas de la société ambiante. On dit, dans le mariage, hein, des chrétiens, des croyants, des croyantes sont appelés à vivre comme ça, puis la parfaite réciprocité. À l'intérieur des communautés, la communauté rassemblée pour prier, même chose, le rôle est identique. Donc, première étape, on a l'impression que ça reste dans la ligne de Galates 3:28.
Oui.
Il n'y a plus ni homme ni femme devant Dieu, il n'y a pas de différence.
Oui. Il y a pourtant des textes qui viennent contredire.
Bon, je vous attendais.
Ce que vous venez de dire. Je pense particulièrement à 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 33-36. Comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles questionnent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée.
Voilà.
Que dites-vous de cette...
Ça, c'est un des deux textes, hein,
oui,
qui est responsable de la persistante accusation de misogynie qui pèse sur saint Paul, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, parce que ce que je viens de lire, on est assuré que c'est de la main de saint Paul.
Oui.
Alors, ça vient un peu, sinon beaucoup, en contradiction avec...
Voilà. Vous touchez exactement, vous mettez le doigt sur le problème. Comment expliquer qu'au chapitre 14, Paul vient de dire que la femme peut prophétiser? Au chapitre 11, que nous venons Paul dit que la femme peut prophétiser. Puis que trois chapitres plus loin, il dit que la femme se taise dans l'assemblée.
Mais oui.
Alors, il y a là une contradiction. D'où les exégètes devant ça ne savent pas comment résoudre cette contradiction. Et mieux que ça, il n'y a pas seulement une contradiction par rapport au chapitre 11, comme on vient de le dire, mais regardez, ce qu'il dit juste avant, ce que vous venez de lire, c'est 14:33-34, hein,
oui,
les versets 33-34.
Oui.
Ah, tout de suite avant, 14:31, Paul dit, « Car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle pour que tous soient instruits et tous exhortés.
Oui. »
Bien, certainement que les deux derniers « tous instruits et exhortés », c'est certainement les hommes et les femmes.
Oui.
Donc, le premier aussi. Vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle. Il reprend ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 11, trois chapitres précédents. Comment se fait-il que deux versets plus bas, il dit que la femme se taise?
Il dit le contraire, finalement.
C'est
de
ça.
Alors,
les exégètes, devant ça, il y a deux écoles. La première école, qui est classique, est ancienne, qui dit que ça doit être... Une interpolation. Ça ne faisait pas partie de la première aux Corinthiens, mais que ce sont des disciples de Paul qui, plus tard, auraient ajouté, devant une attitude de Paul assez permissive, comme ça, ouverte aux hommes et aux femmes, auraient ajouté quelque chose qui va dans la ligne de ce que nous verrons tout à l'heure, 1 Timothée 2, hein, que la femme se taise, je ne permets pas à la femme de parler. Les deux passages se ressemblent beaucoup.
Ouais, donc, c'est ce que vous entendez par interpolation.
Interpolation.
Là. Donc, un ajout de texte
voilà.
qui ne serait pas de la main de Paul
voilà.
et qui viendrait
introduit après
oui.
coup.
Oui.
Le problème, c'est que ce n'est pas scientifique de parler comme ça. Si un texte ne fait pas notre affaire, on dit que c'est une interpolation. Que voulez-vous? Il faudrait avoir des appuis dans les manuscrits. Est-ce qu'il y a des manuscrits où ces versets-là sont absents? Non, on passerait directement du verset 32 au verset 36, 37. Il n'y en a pas.
Ah.
D'où, il faut trouver une autre explication. Et une explication qui fait son chemin depuis 20 ans, et qui, à mon sens, est la meilleure, c'est de penser que Paul fait référence à une opinion corinthienne. Non? Ce que vous avez cité, là. Comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent, qu'elles questionnent leur mari à la maison, etc. Ça, ce serait, au verset 33, 34, 35, ce serait une opinion de certains Corinthiens. Et Paul répond du tac au tac au verset 36. « Et quoi? La parole de Dieu est-elle donc sortie de chez vous? Est-elle arrivée chez vous seul? »
C'est un verset un peu étrange qu'on ne comprend pas.
On comprend que 33-35, c'est l'opinion de saint Paul.
Oui.
On dit, pourquoi réagit-il comme ça si fortement? Et quoi? La parole de Dieu est-elle sortie de chez vous? Qui êtes-vous pour contrôler la parole de Dieu? Tandis que si on comprend qu'il cite une opinion de certains Corinthiens, peut-être d'origine juive, qui voulait faire taire les femmes, et il leur répond, non, vous ne pouvez pas faire ça. La parole de Dieu n'est pas... Vous n'avez pas de contrôle sur la parole de Dieu. C'est une hypothèse, mais l'hypothèse a de bons appuis dans la première aux Corinthiens. Parce que dans cette lettre, vous vous souvenez, d'un bout à l'autre, Paul répond aux questions, aux opinions des Corinthiens, de certains Corinthiens. Tantôt, il le dit. « J'entends dire qu'il y a parmi vous des divisions. Je veux dire ceci. Certains disent, moi je suis pour Paul, moi pour Apollos et moi pour Céphas. » Et Paul répond du tac au tac, « Eh bien, moi, je suis pour le Christ. » Vous voyez? Tantôt, il dit, mais il le dit que c'est l'opinion des Corinthiens. « Comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? » En chapitre 15e. Ou encore, « Mais enfin, me direz-vous, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? » Puis là, il répond, « Insensé, toi, ce que tu sais, etc. »
Oui, au fond, c'est un procédé qu'il utilise. Il avance
une opinion que les Corinthiens connaissaient bien.
C'est ça. Et puis ensuite, il répond.
Alors ici, ce serait ça. Et là, les contradictions disparaissent à l'intérieur de la première aux Corinthiens. Mm-hmm. Il dit au verset 31, « Vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle ce qu'il a dit. » Puis tout à coup, lui vient à l'esprit l'objection de certains Corinthiens. « Je sais ce que certains d'entre vous disent, comme dans toutes les églises de Dieu, que ce serait mieux que les femmes ne parlent pas. » Eh bien, je réponds à ça, vous voyez?
Oui,
ça serait... Si bien que dans toute la première aux Corinthiens, Paul resterait dans la ligne de la tradition primitive, c'est-à-dire qu'il ne fait pas référence au contexte social, il ne parle que des rapports entre les croyants eux-mêmes, quand ils se retrouvent communautairement. Ou...
Donc, c'est un procédé qui est bien, on peut dire qu'il est bien présent
dans cette épître.
Dans cette épître-là.
Oui. Ah, le chapitre 6, par exemple, on pourrait parler de ça.
Oui. Est-ce que les textes de Paul des années 60 maintenant, on a parlé des années 50, viennent modifier la conception que nous avions du rôle de la femme ou de sa relation vis-à-vis de l'homme?
Oui. On a le sentiment, vous voyez, les années 60, c'est essentiellement la lettre aux Colossiens et la lettre aux Éphésiens. Or, dans les deux cas, c'est là que l'on trouve ce que vous avez cité au début, « Femmes, soyez soumises à vos maris
».
Puis on a la même chose dans une lettre qui n'est pas de saint Paul, mais qui doit être de la même période, la première lettre de Pierre, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ça, c'est nouveau, parce qu'on voit que là, il ne parle plus que de la conception de la femme qui découle de la foi. Vous ne faites plus qu'un dans le Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, dans les assemblées entre vous, il n'y a pas de différence, etc. Non, là il dit, soumettez-vous, que les femmes soient soumises à vos maris. Et on voit qu'il fait référence au système, de l'ordre social, socioculturel, on pourrait dire, de son temps. Parce qu'il dit en même temps que les enfants soient soumis à leurs parents et les esclaves à leurs maîtres. Donc là, voyez, on introduit une autre donnée et on a l'impression que c'est comme si les chrétiens, devenant plus nombreux, tenaient davantage compte du milieu ambiant et que la nouveauté chrétienne, non pas est en train de se noyer, parce que dans tous ces textes de Paul, que ce soit Colossiens 3, que ce soit Éphésiens 5 ou que ce soit la première épître de Pierre, on garde l'élément spécifique chrétien.
Oui, donc par exemple dans Colossiens 3, là, pouvez-vous nous le montrer ça?
Oui, clairement.
Qu'il garde le caractère, je dirais, nouveau, là, la nouveauté apportée par Jésus.
Ah oui, c'est très clair. Par exemple, prenons le cas des esclaves. Vous voyez, au chapitre 3:11, il dit « Il n'y a plus ni esclave ni homme libre dans le Christ, puisque tous vous avez été baptisés dans le Christ. » Donc, on revient au début.
Oui.
Mais, tout de suite après, 3:22, « Que les esclaves soient soumis à leur maître. Cependant, dans la société, il faut tenir compte de l'ordre social tel qu'il existe. » Même chose pour les femmes. Alors, on dit, 3:18, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Mais, tout de suite, 3:19, « Marie, aimez vos femmes. » Agapé, l'amour. Donc, ça, c'est chrétien.
Oui.
On tempère. Puis, Éphésiens 5, qu'on n'aime pas à cause de ça, mais c'est un texte superbe. S'il n'y avait pas la première phrase, on le lirait, c'est magnifique.
Mm-hmm.
Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais tout le reste, c'est Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle, il vous laisse la présenter, tout ça, belle et tout. Donc, puis dans la première épître de Pierre, même chose. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et là, il dit, c'est comme si la douceur devait avoir une valeur, parce que le président Obama a parlé tout récemment de la force morale de la non-violence. C'est cet argument qu'il utilise. Ils seront convaincus par, vous voyez, ils voient une motivation missionnaire en quelque sorte à la douceur de la femme. Donc, l'élément chrétien reste là. Mais la nouveauté, c'est qu'on tient compte de l'ordre social.
Oui. Mais alors, je reviens à Colossiens 3. Là. Vous ne trouvez pas ça frappant de voir que dans ce texte-là, Paul fait un parallèle entre les membres de la famille considérés comme forts, c'est-à-dire les maris, les parents, les maîtres, et les membres considérés comme faibles, c'est-à-dire les épouses, les enfants, les esclaves. Il me semble là que Paul nous dévoile ici sa vraie nature en mettant en parallèle la femme, l'enfant et l'esclave. Qu'est-ce que vous dites de ça?
Moi, je dirais pas, par exemple, les faibles, c'est-à-dire, c'est la conception des rapports sociaux de l'Antiquité. Hein? Ça, l'homme, la femme, les esclaves. Mm. Et pour nous, encore aujourd'hui, les enfants et les parents, on discute pas ça.
Non,
les
ça
enfants,
fait, ouais.
Peut-être que dans deux siècles, on paraîtra des vieilles lunes pour avoir pensé... oui, parce qu'il y a des jeunes enfants qui traînent leurs parents en cours maintenant.
Oui,
hein?
Ah, exactement.
Donc, ça apparaîtra dépassé. Ouais. Mais pour le moment, ça ne fait aucun doute pour nous. On ne disait pas que les hommes... La femme, ceux qui étaient soumis, étaient inférieurs nécessairement. On ne parlait pas d'infériorité au plan de l'être ou je ne sais pas quoi. Hein. Non, c'est une question de subordination. Et dans subordination, il y a ordre. Vous voyez, il y a un ordre social et on respecte ça.
Mm-hmm.
Et c'était incontesté à l'époque. Hein. C'est le mari est le maître et la femme est soumise. Mais on ne disait pas que la femme était inférieure comme être humain.
Mmh.
Et si on le disait pour des croyants, ça contredirait l'Évangile.
Mmh.
Il n'y a plus ni homme ni femme.
Mmh.
Non, on ne peut pas dire ça. Mais si vous dites fort, faible, c'est oui, peut-être, en effet. Mais donc, ils acceptaient ça. Il faut bien vivre dans la société. Alors, dans la société, nous sommes une toute petite minorité. Si on pense à Corinthe, il y a des historiens qui vont jusqu'à penser qu'à Corinthe, il y avait 1,5 million de population. Et les chrétiens devaient être au plus 75.
Mm.
Comment aurait-il changé l'ordre social? À Corinthe, il y avait les 2/3 de la population qui étaient des esclaves. Est-ce qu'il aurait dit on ne tient plus compte de l'ordre social selon lequel les esclaves sont impensables?
Mm-hmm.
Mais il disait, souvenez-vous que dans le Christ, il n'y a pas de différence. Que maître et esclave, ça ne fait pas de différence. C'est ça qui est, me semble-t-il, caractéristique de la nouvelle étape de l'évolution.
Vous disiez, Michel, que la deuxième étape dans l'évolution des textes attribués à saint Paul se distingue, là, je vous cite, de la première en ce qu'elle se réfère au modèle de la soumission de la femme pour ce qui concerne la vie en société, tout en continuant, par contre, à affirmer le spécifique chrétien de la dignité égale de la femme. Alors, passons maintenant, et là c'est peut-être un peu plus délicat, au texte après Paul, particulièrement celui de 1 Timothée 2, 8-15, que nous allons entendre à l'instant.
« Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant vers le ciel des mains saintes, sans colère ni dispute. Quant aux femmes, qu'elles aient une tenue décente, qu'elles se parent avec pudeur et modestie, ni tresses, ni bijoux d'or ou perles, ou toilettes somptueuses, mais qu'elles se parent au contraire de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de dominer l'homme. Qu'elle se tienne donc en silence. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Cependant, elle sera sauvée par sa maternité à condition de persévérer dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie.
Alors, qu'est-ce que l'exégète dit de ce texte?
Bien, l'exégète là, constate qu'il y a une étape différente. C'est clair. Qu'on n'est plus dans la même ligne de pensée que l'on trouvait attesté chez saint Paul lui-même hein, dans les textes. L'accord assez général, c'est de penser que la première à Timothée, contrairement à la deuxième, c'est différent.
Mm-hmm.
Mais la première à Timothée n'est pas de saint Paul. Les questions qu'elle aborde, la façon dont elle les aborde, le vocabulaire qu'elle utilise, le style, n'est plus celui des grandes lettres de saint Paul.
Et donc, ça, on est certain. Que ce texte-là n'est pas de la main de Saint-Paul.
On constate qu'il y a ces différences-là.
Oui.
Et donc, on dit, mais c'est quand même, il y a des, C'est des choses qu'on ne trouve jamais chez Paul. Par exemple, je ne sais pas, l'idéal de la première à Timothée, l'idéal chrétien, c'est de vivre dans la piété. C'est curieux, hein? C'est un mot que Paul n'utilise nulle part dans ses lettres. Ça laisse penser que ce n'est pas de Paul. Maintenant, pour en revenir au texte spécifique que vous venez de lire, là, il y a un changement, c'est clair. Ce que l'on constate, c'est que là, c'est la femme doit être soumise. Il ne dit pas dans la société, à l'intérieur de la communauté chrétienne. Saint Paul disait, à l'intérieur des communautés, il n'y a pas de différence. Pas de différence devant Dieu, pas de différence dans le rôle que la femme joue. Elle peut prophétiser dans l'Assemblée.
Oui, ça, c'est à la deuxième étape. Années 50-60.
Voilà. Mais maintenant, c'est plus ça. Dans les assemblées, le modèle de la femme soumise doit régner parmi nous. Et non seulement ça, donc, voyons, on pourrait dire, il importe à l'intérieur de l'assemblée, l'assemblée chrétienne un modèle social de soumission. Première étape, ce qui est nouveau. Deuxième étape, il laisse tomber complètement le spécifique chrétien.
Voyez? Donc, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme.
Voilà.
Il disparaît, là.
Exactement. Okay. Exactement. Et mieux que ça, il va essayer de le fonder sur l'Écriture, pas sur le Nouveau Testament.
Pas
en référence au Christ. Mmh. Alors, à quoi recourt-il? Vous l'avez dit. C'est Adam qui a été formé le premier et Ève ensuite. Saint Paul avait dit ça dans la 1 Corinthiens 11. Mais l'utilisation qu'il faisait n'était pas la même. Ici, lui, l'utilisation qu'il fait, c'est pour dire, on comprend que ça doit être ça. Puisque Adam a été formé le premier, il revient à lui seul de parler dans les assemblées, d'avoir un rôle dans les assemblées. Saint Paul disait le contraire. Mmh. Les deux peuvent prophétiser, non?
Donc, on est là en face d'une régression?
Certainement. Un durcissement, on pourrait dire. On pourrait dire. Puis, regardez ce qu'il dit ensuite. Ce n'est pas Adam qui s'est laissé séduire, mais c'est la femme. Et qu'est-ce que ça... Saint Paul, quand il parle de ça, qu'est-ce qu'il dit dans Romains 5? Est-ce qu'il dit que c'est par Ève que le péché est entré dans le monde? De même que le péché est entré dans le monde par la faute d'un seul homme, Adam, de même par le Christ, tous ont été justifiés. Il ne parle jamais de Ève, ce n'est pas elle. Alors, on a comme un durcissement. On prend le modèle social de la soumission, on l'importe à l'intérieur de la communauté et on essaie de le justifier à partir de l'Écriture. Mais l'Écriture, on ne prend que l'Ancien Testament. Donc, là, il y a indéniablement un durcissement de l'attitude chrétienne face à la femme. Il n'y a aucun doute, non?
Est-ce que les exégètes savent de qui provient ce texte-là?
De la première à Timothée?
Oui,
ne sait pas.
Chapitre
2?
On
ne sait pas.
Non. Vous savez, même si ce texte-là n'est pas de Saint Paul, il reste que c'est un texte qui fait partie des Écritures saintes et qu'il est, disons-le franchement, antiféministe. J'irais même jusqu'à dire qu'il n'est pas en conformité avec les enseignements de Jésus, qu'il, lui, prônait l'égalité homme-femme, le respect de la femme, etc. Et aussi de toute son attitude à Jésus par rapport aux femmes, de sa philosophie qui prônait l'égalité. J'imagine que je ne dois pas être la seule à croire que ces textes, et là j'ose le dire, à être retirés du Nouveau Testament.
Il y a des féministes, et pas seulement des féministes, qui disent, pas seulement à l'égard de ce texte-là, d'ailleurs, mais ce texte-là, c'est un des candidats majeurs. Si on pouvait exclure du canon des Écritures un texte comme celui-là, ça soulagerait beaucoup de monde. Ah, vous savez, l'appartenance au Nouveau Testament, c'est le fruit d'un consensus chrétien séculaire. Hein?
Oui.
C'est le fruit d'un consensus de communauté depuis toujours. Alors, si on voulait exclure un texte, il faudrait un même consensus, des mêmes. C'est impensable, ça. Il me semble que la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'on peut, on doit garder ou non dans le Nouveau Testament ce texte-là. La question, c'est comment faut-il le lire et est-ce qu'il faut le lire? Par exemple, je constate que ce texte n'est jamais lu dans la liturgie. Jamais. Dans l'Église catholique, ça m'étonnerait qu'il le soit aussi dans d'autres, peut-être, je ne sais pas. Mais dans l'Église catholique, ce n'est jamais lu. Ni le dimanche, d'ailleurs, ces lettres à Timothée et à Tite, ce ne sont pas les lettres les plus importantes du Nouveau Testament. On n'en fait pas une lecture fréquente. Mais ce texte n'est pas lu. Par ailleurs, dans le même chapitre 2, du même Timothée, il y a là une affirmation d'importance capitale. Autant le texte qui nous intéresse, nous autres, contre les femmes, entre guillemets, heurte une mentalité contemporaine, autant l'autre est en consonance avec les attentes d'une mentalité contemporaine. C'est devenu le point d'appui majeur de la théologie du pluralisme religieux. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ah ben, si on retirait 1 Timothée du Nouveau Testament, on n'aurait pas ça, qui est un passage très important.
Mais vous savez, vous parliez d'un consensus tout à l'heure, mais il reste qu'aujourd'hui, si aujourd'hui dans l'Église, il y a un consensus pour enlever ce texte-là, et puis j'imagine qu'on n'est pas obligé de tout enlever la lettre, on peut enlever que cette partie-là, si d'un commun accord, je dirais, et je pense que vous êtes mieux placé que moi pour le dire, est-ce que la majorité des exégètes considèrent, parce que vous avez fait une analyse sérieuse quand même de ce texte-là, et il me semble que on le ferait pas de manière désinvolte, sans considération et tout. Vous avez, il me semble que votre analyse exégétique, elle est sérieuse. Il me semble qu'elle vient, de toute façon, je dirais qu'elle vient confirmer une certaine façon de voir de tout un peuple de croyants. Il me semble qu'on doit suivre.
Oui, je vois votre point de vue.
Pas forcément suivre le courant ou les modes, mais il me semble qu'on doit écouter ce que le peuple a à dire. Oui. Et votre étude, votre analyse, je le répète, qui est sérieuse et qui n'est pas faite n'importe comment, vient répondre à ce que les croyants attendent.
Oui. La question, c'est, me semble-t-il, le Nouveau Testament, si on le regarde, contient beaucoup de choses. Et si on partait en disant, on va enlever ce qui nous contrarie aujourd'hui,
ce qui ne correspond pas
à l'Évangile même,
à l'attitude de Jésus par rapport aux femmes, à sa philosophie d'égalité, de justice sociale.
Mais regardez, Christine, on a dans le Nouveau Testament, par exemple, on a des éléments qui n'ont rien à voir avec la foi, mais qu'on garde parce que... Alors, prenons un cas extrême en simplifiant beaucoup, là, pour faire voir le genre de choses auxquelles je pense. Quand, dans la deuxième à Timothée, pas la première, mais on pourrait prendre la première à Timothée, quand il dit au chapitre 5e à Timothée, « Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac, pour tes fréquents malaises, cesse de ne boire que de l'eau. » Quand il va dire à Timothée, quand tu passeras à Troas, arrête chez Carpos, prends mon manteau, puis apporte aussi mes parchemins, puis dépêche-toi d'arriver avant l'hiver. Bon, alors ça n'a rien à voir avec la foi, c'est bien clair. C'est lié à une expérience, à des circonstances tellement contingentes, mais en même temps, on dit, c'est là, et puis le genre littéraire de la lettre prête à ça. Si c'était dans les évangiles, on se demanderait un peu qu'est-ce que ça vient faire que Jésus a redit « prenez un peu de vin pour votre estomac ». Mais dans une lettre écrite à un disciple particulier, on dit « c'est très bien, ça montre que c'était des gens comme nous autres et puis qu'ils n'avaient pas que des préoccupations ».
Donc, on n'enlève pas ça.
On n'enlève pas ça, on dit « on le garde ». Dans d'autres cas, il y a des éléments qui ont quelque chose à voir avec la foi, mais qui sont en relation avec des questions, des expériences, des situations qui n'ont plus aucune pertinence aujourd'hui. Mais on les garde quand même. Par exemple, prenons la première aux Corinthiens, chapitre 8, chapitre 10, la question des viandes immolées aux idoles. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Des croyants se faisaient des scrupules parce que des viandes qui avaient été immolées dans des temples païens se retrouvaient, les surplus se retrouvaient sur le marché, au marché le lundi matin, le lendemain, et on les avait à prix réduit. C'était avantageux. Alors, des chrétiens disent à Paul, est-ce qu'on peut manger ça, nous autres? Est-ce que ce n'est pas pactisé avec l'idolâtrie de ça? Alors, Paul répond, mangez, à moins que vous deviez scandaliser quelqu'un. Alors, tout ça, on pourrait l'enlever, s'honorer, ou encore que la femme porte sur la tête quelque chose. Jusqu'à Vatican II, on a compris que c'était quelque chose qui valait assez universellement et intemporellement. Autrement dit, vous voyez, on prend un passage donné, on l'isole de tout son contexte, puis on risque d'en faire un principe absolu. Mm. C'est la vision fondamentaliste des choses, vous voyez. Au lieu de voir quelle était exactement dans le contexte, quelle est la portée de ce texte-là dans l'ensemble du Nouveau Testament. Mm. Et là, on est en mesure de dire, bien, c'est bien clair. Si on ne prend que ce texte-là et qu'on se fait une idée générale sur tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, ça ne fonctionne pas, évidemment.
Oui, oui.
Mais si on essaie de, bon, ah, il y a ça, oui, mais ça, c'est Saint Paul dit autre chose. Et, bien là, on voit qu'il est finalement relatif. Et c'est pourquoi, par exemple, me semble-t-il, dans la liturgie, on ne lit pas ce texte-là.
Mm-hmm. Oui, je comprends. Et mais de la même manière, je dirais aussi, en reprenant les mots de Paul, ah. lisez. À moins que ça ne scandalise des gens. Et on sait que le scandaliser, c'est, si je me souviens bien de mon grec biblique, ça veut dire trébucher.
Faire trébucher
quelqu'un. Mm-hmm. Ces textes-là peuvent amener des gens qui sont, je dirais, dans une démarche. Mm-hmm. Pas forcément des gens qui connaissent la richesse de l'Évangile, par exemple, la richesse des textes de Paul, qui sont capables de voir la différence entre un texte plus ou moins important et un qui est de fait, comme vous dites, on ne les lit plus, on ne lit plus ce texte-là, mais il reste que il y a des gens qui sont en démarche, je dirais, sont dans un processus, et ça peut les faire trébucher, me semble-t-il.
Ça peut rebuter quelqu'un.
Ça peut rebuter quelqu'un.
Et laisser croire que ça, c'est la vision chrétienne, en l'occurrence, de la vision chrétienne de la femme.
Oui. Je pense, par exemple, à des jeunes qui ne connaissent pas toute la richesse du christianisme, des textes sacrés, qui tombent là-dessus. Et pour eux, c'est... Ça va tout à fait en contradiction et ils sont assoiffés d'une parole vraie, d'une parole sensée, je dirais.
Il faut souhaiter qu'ils tombent sur autre chose ou qu'on leur fasse voir qu'il y a autre chose.
Oui, ah, et puis, vous savez, quand on est dans un processus et qu'on est croyant même, on a besoin, vous savez, c'est l'importance du travail des exégètes. Mmh. On a besoin d'être accompagné dans la lecture des textes. Alors, on peut tomber parfois sur des gens qui ne nous guident pas bien, hein, ou encore, il y a des gens qui n'ont pas ces guides-là et qui vont faire des lectures seuls, et qui vont tomber sur ces textes-là. Il me semble que ça a des effets beaucoup plus négatifs de le garder que de le conserver.
Peut-être, en effet. Mais ce qu'on observe là-dedans, Christine, il me semble, c'est le risque de l'inculturation.
C'est-à-dire?
Les textes qui posent difficulté, ce sont les textes qui essaient de voir quelle doit être l'attitude chrétienne dans un contexte culturel déterminé. Hein? Mm-hmm. Alors, dans le cas de 1 Timothée, ça devient clair. On a affaire à une communauté qui est très marquée par la société ambiante, qui emprunte le modèle social et qui le transporte dans l'Église. L'inculturation, c'est une chose essentielle. Comme exactement ce que vous dites. Il faut dire l'Évangile d'une manière qui soit parlante aux gens. Que voulez-vous? Parler pour aujourd'hui. Ces gens ne sont plus au premier siècle. Il faut leur parler d'une manière qu'ils vont comprendre, qui sera signifiante pour eux. C'est vrai. Absolument. On ne peut pas passer à côté de ça. Mais l'inculturation, c'est une arme à deux tranchants, me semble-t-il. Parce que il se peut, si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on le saler? Il se peut que l'Évangile se dissolve dans la culture ambiante. Et 1 Timothée, me semble-t-il, témoigne de ça sur ce point, finalement, assez, je dirais pas secondaire, mais les rôles de la femme dans la société. Et on le transporte à l'intérieur. La nouveauté
Donc,
chrétienne s'est perdue, en quelque sorte.
Oui. Donc, ce texte-là aurait comme vocation, je dirais, d'être un anti-modèle. Voici ce qu'on ne doit
D'une
pas
certaine manière,
faire.
Je dirais ça. Mm-hmm. Oui, exactement, jusqu'à un certain point, comme dans 1 Corinthiens 15, des Corinthiens grecs ont de la difficulté avec la résurrection. Mmh. Ils disent, on nie ça. Parce que ça heurte une conception grecque plutôt dualiste qui favorise même chose. Donc, et Paul dit non, ça n'est pas conforme à la foi. Mm-hmm. Si vous laissez tomber ça, il ne reste rien. Donc, on voit, c'est toujours le risque que la foi chrétienne soit, entre guillemets, contaminée par des conceptions, des pratiques qui risque de la dissoudre, qu'elle se dissolve dans sa nouveauté, dans sa spécificité et tout.
Mm-hmm. Donc, on conserverait ces textes-là pas simplement par conservatisme ou pour
montrer
respecter le consensus de ces gens-là qui ont formé le canon des Écritures, mais plus, mais, hein?
Oui,
plus,
c'est l'illustration de la difficulté qui atteint la foi chrétienne à toutes les époques. Et ça, nous le constatons. Quand il se produit dans une culture donnée, quand il arrive des situations inédites, que ce soit, pensons à la contraception, pensons à l'homosexualité, pensons à toute l'euthanasie, toutes les questions difficiles. Et les chrétiens doivent réagir devant ça. Eh bien, c'est toujours délicat. Et ce qui scandalise les gens, c'est quand on a pris des positions trop fermes ou trop assurées sur des questions qui étaient trop difficiles pour qu'on puisse mmh. prendre des positions aussi fermes. Mmh. Et que 50 ans après, on dit « ça ne marche pas, faut les abandonner ces positions-là ». Bon, ben alors, vous voyez, c'est toujours le risque. Il faut le faire. On ne vit pas dans les airs. Les croyants ne vivent pas entre ciel et terre. Mmh. Face à l'euthanasie, il faut qu'ils prennent une position. Mais il faut faire attention. Ouais. Il faut le faire au nom de l'Évangile et s'assurer qu'on le fait au nom de l'Évangile et qu'on voit la complexité de la chose et tout. Alors, un texte comme 1 Timothée n'a pas l'air de faire toutes ces différences, enfin, ces nuances.
Ben, écoutez, je vous remercie, Père Michel Gourgue, de nous avoir éclairé sur des textes difficiles, hein, disons-le, à lire, parce que parfois, ils heurtent nos sensibilités d'hommes et de femmes contemporains. Alors, mais on sera peut-être un peu plus en mesure de les lire de manière plus nuancée. Hein? Alors, je vous remercie.
Merci à vous.
Je remercie bien chaleureusement Michel Gourgue, professeur à la Faculté de théologie du Collège universitaire dominicain à Ottawa et professeur invité à l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Je vous informe que Michel Gourgue a publié en 2009 aux éditions du Cerf les deux lettres à Timothée, la lettre à Tite, un ouvrage savant donc sur ses lettres pastorales. Je remercie Marc Chevary pour son soutien à la technique. Un merci tout particulier à Simon-Pierre Chevary-Cossette à la lecture des textes. Je remercie Francine Robert qui coordonne cette série d'émissions Croire d'hier à demain, réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal pour Radio Ville-Marie. Je vous souhaite donc une très bonne semaine. Au revoir.